Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité africaine. Jamais un G7 ne s'est tenu aussi proche de l'Afrique, mais jamais l'Afrique n'a été aussi loin des préoccupations du G7. Se désole Frédéric Roder, responsable de l'ONG VAN, qui suit les réunions entre les 7 grands pays, à savoir États-Unis, Grande-Bretagne, France, Italie, Allemagne, Japon et Canada depuis des années. Et pourtant, l'Italie, pays hôte du sommet, a fait de l'Afrique une de ses priorités et avait choisi à dessein la Sicile au cœur de la Méditerranée et pont entre l'Europe et l'Afrique, selon les mots du président du Conseil, Paolo Gentiloni. Selon des sources diplomatiques italiennes, une déclaration séparée sur l'Afrique et la mobilité humaine, une façon positive d'envisager les migrations était en projet. Mais les Américains ont tué le projet et ont fait savoir fin avril qu'ils refusaient toutes les déclarations séparées, selon Frédéric Roder, déplorant que la vision sécuritaire constitue l'alpha et l'oméga de la relation avec l'Afrique. Nous devons être durs et vigilants sur l'immigration, a lancé cette semaine le président américain Donald Trump en tournée européenne, liant une nouvelle fois immigration et terrorisme. Des milliers de personnes se répandent dans nos différents pays et se dispersent, et dans de nombreux cas, nous ne savons pas qui ils sont, a-t-il déclaré à Bruxelles. Le problème n'est pas tant Trump que les autres pays qui n'ont rien fait pour sauver le projet italien et qui se laissent faire, déplore la responsable de cette ONG. Résultat, la question des migrations et de l'Afrique en général devrait faire l'objet d'un ou deux paragraphes dans le communiqué final du G7, selon des sources italiennes. Pourtant, 5 chefs d'État et de gouvernement africains sont invités à Taormina, le Niger, l'Éthiopie, le Kenya, la Tunisie et le Nigeria, d'où vient le plus gros contingent de migrants en Italie, ont participé samedi matin à une réunion avec les membres du G7. La lutte contre le terrorisme dans les pays du Sahel et du bassin du lac Tchad exige que des mesures urgentes soient prises pour éteindre le chaudron libyen, a déclaré le président du Nigeria, Mahamudu Issoufou. Lors d'une réunion entre 5 pays africains, les dirigeants du G7 réunis à Taormina. Cet appel intervient alors que la Libye continue à s'enfoncer dans le chaos et que de violents combats ont secoué vendredi Tripoli, faisant 28 morts. Et le président tunisien Béji Caïd Essebsi a insisté sur le défi sécuritaire posé par la Libye lors d'une bilatérale avec son homologue français Emmanuel Macron peu avant la rencontre Afrique G7. Les engagements pris en 2015 lors d'un précédent G7 en Allemagne restent encore à tenir. Les pays riches avaient alors promis d'allouer 0,7% de la richesse nationale à l'aide publique au développement et s'étaient engagés à œuvrer pour sortir 500 millions de personnes de la faim et de la malnutrition d'ici à 2030. L'aviation loyale au maréchal Khalifa Haftar a annoncé samedi avoir participé aux frappes aériennes menées par l'Égypte en Libye en représailles à une attaque contre des Coptes en Égypte. Mais le gouvernement d'union nationale basé à Tripoli, appuyé par la communauté internationale, a dénoncé le raid égyptien à Derna comme une attaque contre la souveraineté du pays. « Le groupe terroriste Ansar al-Sharia, une branche de Daesh en Libye, a reconnu dimanche matin sa défaite face à l'armée libyenne et a annoncé sa dissolution officielle. Qualifié de terroriste par l'ONU et les États-Unis, Ansar al-Sharia a diffusé un communiqué en ligne pour dire « Nous annonçons officiellement à tout le monde qu'Ansar al-Sharia a été officiellement dissous. » Ce groupe terroriste qui a fait déjà l'allégeance à Al-Qaïda s'affrontait depuis 2012 avec l'armée libyenne étant sous le commandement du maréchal Khalifa Haftar. En Algérie, Abdelaziz Bouteflika a nommé les membres du gouvernement, 27 ministres aux commandes. La composante du gouvernement post-élection législative du 4 mai dernier est désormais connue. L'exécutif se compose ainsi de 27 ministres, dont certains au nombre de 12 plus exactement font leur entrée au gouvernement pour la première fois alors que 13 autres ont été reconduits. Deux ministres font par ailleurs leur retour au gouvernement. Ainsi donc, 24 heures après avoir désigné Abdelmajid Tebboune au poste de Premier ministre mercredi passé, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a procédé jeudi à la nomination des membres du gouvernement avec à la clé quelques surprises. Ainsi, Ramtane Lamara n'est plus le chef de la diplomatie algérienne. Le dialogue politique au Gabon voulu par le président Ali Bongo pour sortir le pays de sa crise post-électorale à la suite de sa réélection contestée du 27 août s'est achevé vendredi avec des réformes timides après 2 mois de discussion. La règle du jeu a été le consensus au sein de ses assises, a déclaré à la presse le secrétaire général du parti au pouvoir, Faustin Boukoubi, lors d'une cérémonie au palais présidentiel. Il a regretté que tous les acteurs n'aient pas participé au dialogue. Le forum a été rejeté par le rival d'Ali Bongo, Jean Ping, qui s'était proclamé président élu au scrutin du 27 août 2016, dont les résultats sont contestés. Selon les conclusions du dialogue, le mandat présidentiel reste d'une durée de 7 ans et il est renouvelable à souhait. Seule réforme concédée à l'opposition à propos du président gabonais, un scrutin à 2 tours. La Suisse procède à une deuxième restitution d'avoir spolié à la Tunisie au titre du recouvrement des fonds détournés par le clan Ben Ali. Trabelsi a déclaré vendredi chez le gouvernement suisse. Le 26 mai 2017, dans le cadre de l'exécution par le ministère public de la Confédération d'une demande d'entraide judiciaire de la Tunisie, la Suisse lui a fait remettre un nouveau montant d'environ 3,5 millions d'euros, a fait savoir le département fédéral des affaires étrangères de la Confédération suisse dans un communiqué. L'argent bloqué en Suisse en lien avec un proche de l'ancien président et transmis aux autorités tunisiennes avec l'accord de celui-ci, est-il également précisé dans ce communiqué. Une première restitution de ses avoirs spoliés à la Tunisie avait été accordée par la Suisse en mai 2016 d'un montant de 227 000 euros. Eh bien, chers amis, c'est la fin de l'émission Afrique de cette semaine. Merci infiniment de l'avoir suivi. On va se retrouver la semaine prochaine pour une autre émission et pour parler d'autres sujets, d'autres faits, d'autres choses marquant l'actualité africaine.
Thank you.